Merci Monsieur le Président. Je remercie évidemment les organisatrices de m'avoir convié à intervenir au cours de ce très beau colloque. Alors jusqu'à maintenant, nous avons entendu principalement des interventions de nature philosophique sur l'institution. Je vais essayer de resserrer la focale pour me concentrer sur une sorte d'étude de cas qui est la prison. Pour être exact, je vous présente la synthèse des résultats d'une recherche qui est partie de la question des mesures d'ordre intérieur. Alors, les mesures d'ordre intérieur sont une catégorie qui est évidemment familière aux juristes de droit public, peut-être moins aux philosophes. Les mesures d'ordre intérieur sont une des catégories de mesures administratives qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux devant le juge administratif. Ou si elles font l'objet d'un recours, elles se heurtent à une déclaration d'irrecevabilité de la part du juge. Ces mesures d'ordre intérieur, elles trouvaient leur terrain d'élection de façon traditionnelle dans les grandes institutions fermées qui étaient la prison, l'armée et l'école. Et les mesures organiques de ces institutions et surtout les mesures disciplinaires ont échappé au contrôle juridictionnel pendant des décennies. En gros, entre l'arrêt Sieur Bruno de 1932 qui a ouvert la ligne jurisprudentielle des mesures d'ordre intérieur et l'arrêt Marie du 17 février 1995 qui a opéré un renversement de jurisprudence sur les mesures d'ordre intérieur. Or, voici ce que déclarait le commissaire du gouvernement Patrick Friedman dans ses conclusions sur l'arrêt Marie, je le cite. Le premier argument en faveur de la jurisprudence des mesures d'ordre intérieur, premier argument tiré de ce que l'existence d'une voie de recours juridictionnelle à l'encontre des sanctions prononcées serait de nature à porter atteinte à l'autorité du commandement hiérarchique et à la discipline, cet argument ne nous arrêtera pas longtemps. Pareille affirmation procède en effet d'une conception à nos yeux erronée de ces dernières notions, lesquelles ne sauraient en aucun cas se confondre avec celles d'arbitraire. Cette affirmation de Patrick Friedman pose problème. Elle pose problème parce que, à nos oreilles, elle sonne comme pas beaucoup plus qu'une platitude, comme une évidence pure et simple. Si vraiment c'est une conception si erronée que cela du pouvoir disciplinaire, comment expliquer que la jurisprudence des mesures d'ordre intérieur ait pu avoir une telle longévité de 1932 à 1995? On aimerait chercher tout au moins une explication convaincante à cette retenue du juge administratif qui s'est tenue sur le seuil des prisons. Le problème, c'est que les arrêts qui ont égrené la jurisprudence des mesures d'ordre intérieur, en prison en tout cas, ont été d'un laconisme assez désespérant. Le juge ne dit jamais pourquoi il refuse de contrôler les mesures d'ordre intérieur. Si on se tourne du côté de la doctrine, on se rend compte qu'elle n'est pas beaucoup plus déserte et qu'elle cache assez mal en réalité son embarras vis-à-vis d'une jurisprudence qui lui semble beaucoup plus d'opportunité que de droit strict. Mais si on creuse un peu, on voit que, par exemple, chez Drago et Ogi, par exemple, chez le président Audan dans son cours de contentieux administratif, quels sont les arguments qu'ils vont mentionner? Alors, le premier, ça tient à ce qu'il ne faut pas que le juge administratif soit étouffé sous les recours portant sur des mesures de faible importance, selon le célèbre adage latin « de minimis non curat praetor ». Et le deuxième argument, qui est mentionné par Ogi et Drago comme par le président Audan, eh bien, c'est que dans certains services publics où la discipline se doit d'être particulièrement ferme, eh bien, traditionnellement, le juge observe une certaine réserve. On revient à la question de départ. Comment se fait-il que le juge est jugé nécessaire de ne pas introduire son contrôle dans les prisons, alors que la prison incarne par excellence le lieu où le risque de l'excès de pouvoir est le plus grand, est le plus menaçant pour le droit de l'individu. Encore une fois, les arrêts du juge administratif ne sont pas très éloquents de ce point de vue, les conclusions des commissaires du gouvernement non plus. Il faut peut-être un peu changer de point de vue. Le juge administratif, encore une fois, ne nous a pas dit pourquoi il s'était tenu sur le seuil des prisons pendant des décennies. En revanche, il nous a dit pourquoi il y était entré. Pourquoi y est-il entré ? Eh bien, selon la célèbre formule de la Cour européenne de droits de l'homme dans son arrêt Campbell et Fell contre Royaume-Uni du 28 juin 1984, la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons. Et c'est sous le patronage de cette haute juridiction que le commissaire du gouvernement Friedman s'est placé pour inviter le Conseil d'État à modifier sa jurisprudence sur les mesures d'ordre intérieur. En un mot, ça n'est pas le Conseil d'État, dans sa fonction traditionnelle de juge de la légalité administrative, qui a renversé la jurisprudence des mesures d'ordre intérieur, c'est le Conseil d'État, dans ses habits neufs, de protecteur des droits et libertés fondamentaux. Il faudrait comprendre par là, semble-t-il, que la prison, jusqu'à ce que le juge y introduise son contrôle juridictionnel, a été un milieu qui était largement soustrait aux exigences de la légalité, du libéralisme, de la protection des droits. Et ici, on rencontre un problème, un autre problème. Encore une fois, le juge n'a pas vraiment discouru sur son abstention face aux mesures d'ordre intérieur. En revanche, l'administration elle-même, et cela depuis la Révolution française, a beaucoup discouru sur les prisons. On pourrait même dire qu'elle a été assez bavarde sur les prisons. Et si on se penche sur le contenu des divers textes, règlements, circulaires qui émaillent l'histoire de la prison en France, que constate-t-on ? On constate que le discours qui est tenu sur les prisons se veut, je ne dis pas qu'il l'est, mais se veut un discours libéral. Et pas du tout un discours radicalement illibéral qui nierait le détenu en tant que sujet de droits et de libertés. Ce que l'on peut constater, c'est que le libéralisme, le type de libéralisme qui s'exprime dans les différents textes administratifs qui émaillent l'histoire de la prison en France, et cela surtout dans la première moitié du XIXe siècle, ce type de libéralisme-là ne correspond plus tout simplement au libéralisme d'aujourd'hui. Pourquoi ? Je vais essayer de dire les choses très simplement. Nous avons affaire au XIXe siècle en France à un libéralisme éminemment moralisant qui considère que tout droit est fondé sur un devoir, c'est-à-dire que le droit individuel, la définition du droit individuel, c'est d'être la liberté de faire ce que le devoir moral exige. Et cette conception éminemment moralisante du droit individuel, qui est celle qui a dominé dans la société dite bourgeoise jusque dans les années 1960 du XXe siècle, cette conception-là du droit individuel, vous disais-je, eh bien, elle justifiait par avance un assujettissement local des individus dans certaines institutions où le périmètre de leurs droits était réduit par rapport aux droits de l'administration. Je pense encore une fois à l'école, à l'armée, à l'école, à l'armée et à la prison qui nous intéresse aujourd'hui. Ainsi, l'objet de cette contribution consiste tout simplement à décrire le plein moral qui occupait l'institution carcérale pendant un siècle et demi, qui a disparu soudainement dans les années 60 et qui a été comblé, rempli par l'intervention du juge protecteur des droits fondamentaux. Autrement dit, on a eu la substitution d'une conception morale du droit individuel à une autre conception morale du droit individuel. Substitution, si vous voulez, d'un moralisme à un autre. Je n'emploie pas moralisme ici en un sens particulièrement péjoratif. Pour établir cette proposition, je vais d'abord essayer de vous décrire ce qu'a pu être l'institution carcérale au moment de sa fondation, c'est-à-dire essentiellement sous la monarchie constitutionnelle entre 1814 et 1848. Puis, dans un deuxième temps, je vous montrerai comment cette institution carcérale, avec sa morale propre, s'est vidée de son contenu dans les années 1960, ce qui a ouvert la possibilité de la pénétration du juge administratif dans le milieu carcéral et donc la fin de la jurisprudence traditionnelle des mesures d'ordre intérieur. Je commence donc par cette première partie sur la constitution de l'ordre intérieur carcéral sous la monarchie constitutionnelle. Comme je vous le disais, ce que l'on constate dès la Révolution, en fait, c'est que la prison moderne, qui est la prison, comme disait Pellegrino Rossi, c'est la peine par excellence dans les pays civilisés, eh bien, cette prison, elle a été pensée dans une perspective progressiste, tout simplement. On en a un exemple dès le rapport sur le projet de code pénal à l'Assemblée nationale constituante, présenté par Le Pelletier Saint-Fargeot en mai 1791, où Le Pelletier Saint-Fargeot dit deux choses. Il dit voilà, la prison, elle est faite pour réprimer le crime, certes, mais pas uniquement. Elle doit se fixer un but plus élevé, un but qui correspond aux lumières. Ce but, ça doit être l'amendement du condamné. L'amendement du condamné, on doit lui permettre de se débarrasser de sa faute, de se débarrasser de son vice, disons-le, en lui inculquant une vie plus saine. Et Le Pelletier Saint-Fargeot proposait un système qui reposait essentiellement sur la valeur rédemptrice du travail et la dégressivité de la pénibilité de la peine au fur et à mesure de la peine. Simplement, bon, la période révolutionnaire ayant été ce qu'elle a été, le projet de Le Pelletier Saint-Fargeot n'a débouché sur rien, les prisons sous la Révolution ont servi à entasser sans ordre toutes les victimes successives des vindictes politiques. Et le résultat au sortir de l'Empire, donc je fais un bond de 25 ans, le résultat au sortir de l'Empire, c'est que les prisons sont dans un état proprement catastrophique. Il y a aucune la répartition des détenus n'est pas respectée, les mesures d'hygiène est épouvantable, il y a une mortalité qui est tout aussi épouvantable. Bon. Et c'est donc lors de la courte période que l'on appelle la période libérale de la Restauration, qui va de la fin de l'année 1818 au début de l'année 1820, sous la domination de Élie Decazes, le comte Decazes, c'est à ce moment-là que va émerger une première tentative d'organisation philanthropique, progressiste, libérale, de l'institution carcérale. Et cette tentative sera reprise lorsque les progressistes, les doctrinaires, reviendront au pouvoir après la Révolution de 1830. Certains auteurs voient une rupture entre le projet de 1818-1820 et ce qui s'est passé sous la monarchie de Juillet après 1830. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il n'est pas du tout évident qu'il y ait eu une rupture. Il y a peut-être eu une continuité fondamentale et d'une importance fondamentale pour le sujet qui nous concerne. Je commence donc par la question du régime intérieur dans les travaux de la Société royale des prisons. Puisqu'en effet, cette société est créée par une ordonnance du roi Louis XVIII du 9 avril 1819 et rassemble la fine fleur de ce qu'on pourrait appeler le progressisme de l'époque, progressisme modéré certes, mais progressisme quand même, Vous avez Bigot de Préameneux, vous avez le duc de La Rochefoucauld, vous avez le comte de La Borde, donc vous avez un certain nombre de grands noms de l'époque. Et voici ce qu'écrit Decazes dans son rapport du 9 avril 1819 sur la création de la société. Je le cite. « Pour que la loi ne soit pas trompée dans sa prévoyance, il faut que la peine produise réellement sur le coupable qui l'a subi l'effet qu'elle en attend. Deux conséquences essentielles en découlent et peuvent seules conduire au but que la loi se propose. La première conséquence, c'est qu'on ne doit infliger au détenu aucune peine qui dépasse celle que la loi a voulu lui faire subir en le privant de sa liberté. La seconde, c'est qu'il est du devoir comme de l'intérêt de la société d'exiger qu'aucun soin ne soit négligé pour opérer la réforme morale de celui qui doit rentrer un jour dans son sein. Ainsi, deux dimensions se trouvent étroitement articulées dans le projet carcéral de la Société royale des prisons. D'une part, la question du droit des détenus, d'autre part, la question de la réforme morale, de l'amendement moral des détenus. Droit du détenu, tout d'abord. Que constate-t-on lorsqu'on lit les rapports de la Société royale des prisons, de La Rochefoucauld, de La Borde, d'Élie Decazes, de Bigot de Préameneux, peu importe. Tous ces gens condamnent avec la plus grande fermeté ce que l'on appelle l'arbitraire. Il n'y a pas plus de condamnation de l'arbitraire dans les conclusions contemporaines de Patrick Friedman ou de Mathias Guillaumard que dans les rapports de 1819 sur l'organisation carcérale. Donc ces gens considèrent bien qu'il faut respecter le droit du détenu. Mais qu'appellent-ils le droit du détenu? Ce qu'ils appellent le droit du détenu, c'est en réalité un noyau dur qui consiste à être traité avec justice et humanité. Il faut exercer, comme il disait, la justice la plus exacte. La justice, donc, en ce sens, la justice, c'est un devoir qui pèse sur l'administration. C'est essentiellement ça. Vous avez donc une configuration où le droit de l'administration se déploie jusqu'à ce qu'il rencontre le droit du détenu, ce noyau dur dont je parle. Or, ceci ne correspond plus du tout à l'état contemporain du droit, où c'est l'inverse qui prévaut, c'est-à-dire que c'est le droit du détenu, ce sont les droits des détenus, qui peuvent se déployer jusqu'à ce qu'ils rencontrent la limite imposée par la détention. Voilà pour le droit du détenu. Je passe à la question de la réforme morale du détenu. Cette réforme morale est essentielle parce que c'est elle qui fait de l'institution carcérale justement une institution. C'est le but moral, l'idée directrice, pour reprendre la formule d'Oriou, qui va donner sa cohérence à toutes les parties de l'institution. Et vous avez des formules qui sont très claires de ce point de vue chez La Rochefoucauld ou chez le comte de La Borde, qui dit « toutes les parties doivent être organisées de manière à concourir à ce but ». De quoi parle-t-on? On parle du travail, de l'éducation, du culte, de ce type de choses. Et de façon amusante, le comte de La Borde parle de la prison comme d'une ponéropolis, ou d'une ville des méchants, qui a son chef d'État, ses lois, son régime. Et là où peut-être le système va être sans lendemain, c'est que l'instance qui est chargée de régir ces prisons, ce sont ce qu'on appelle les commissions départementales des prisons, qui sont composées de notables. Autrement dit, la prison telle que l'envisage la Société royale des prisons est une prison qui est ouverte sur la société civile. Ça, pour le coup, ça ne va pas du tout survivre. Ça ne va pas du tout survivre, déjà parce qu'il y a une réaction consécutive à l'assassinat du duc de Berry en février 1820, et le système de la société royale des prisons est à peu près balayé. Nous passons ainsi à la question du régime intérieur sous la monarchie de Juillet. Que constate-t-on à ce moment-là? C'est sûr que ce qu'on appelle le philanthropisme n'a plus le vent en poupe. Il éveille plutôt le sarcasme. Il faut dire que désormais on a peur des classes dangereuses. Il faut dire aussi que les doctrinaires, comme je disais, sont arrivés au pouvoir et que l'exercice du pouvoir les rend plutôt plus prudents qu'avant. Ce qu'on constate par conséquent sous la monarchie de Juillet, c'est une évolution qu'on peut qualifier d'une évolution technocratique. mais une véritable évolution technocratique, c'est-à-dire que vous avez des études en pagaille qui sont conduites, des études de droit comparé. Tocqueville part pour les États-Unis pour étudier le système américain, mais d'autres sont envoyés dans tous les systèmes d'Europe pour organiser, pour constater la façon dont les prisons sont organisées. Vous avez un statut spécialisé des personnels qui est mis en place. Statut des maisons centrales, du personnel des maisons centrales en 1831. Statut du personnel des prisons départementales en 1841. Vous avez une inspection générale des prisons qui est créée en 1832. Un conseil des inspecteurs généraux qui est créé en 1838. À côté de cela, vous avez la naissance d'un système disciplinaire. Avec, pour commencer, un embryon, il faut vraiment parler d'un embryon, de l'égalité des infractions et des sanctions. Et la création de ce que l'on appelle le prétoire de justice disciplinaire par un arrêté du 8 juin 1842. Je cite un passage du ministre de l'Intérieur Tanelli du Châtel, qui a, dans le rapport qui accompagne cet arrêté. Je le cite. L'intérêt d'une bonne police exige de la part du directeur l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et sans partage pour l'application des punitions autorisées par les règlements. Son autorité pourrait être compromise ou affaiblie s'il était possible qu'elle fût absorbée par la volonté ou par l'opinion contraire de ses subordonnés. Un pouvoir unique doit présider à la direction de toutes les parties de l'administration. Et la responsabilité doit se centraliser dans les mains d'un seul, sous peine d'en affaiblir tous les ressorts. Donc, évolution technocratique, émergence d'un système disciplinaire concentré dans la personne du directeur des prisons. En résumé, vous avez une clôture de l'institution carcérale. Une clôture de l'institution carcérale qui désormais est une affaire de spécialistes. La question qui se pose à partir de là, c'est de savoir si la prison, à ce moment-là, a été dénaturée, c'est une expression que je reprends de l'historienne Catherine Duprat, par rapport au projet des philanthropes de la séquence 1818-1820. Or, cette idée a été remise en cause. Elle a été remise en cause notamment par l'historien Jacques-Guy Petit, qui parlait plutôt, lui, de ce qu'il appelait une seconde philanthropie. Et Jacques-Guy Petit disait, mais pour être vraiment réalisé, le système de 1819, la ponéropolis, ce système nécessitait une clôture sur elle-même de l'institution carcérale. Elle nécessitait la soumission de la prison à des spécialistes, à des techniciens. D'ailleurs, un point tout à fait intéressant sous la monarchie de Juillet, c'est que c'est la période de gloire d'un monsieur qui s'appelle Charles Lucas. Charles Lucas, dont Michel Foucault parle abondamment dans Surveiller et punir. Charles Lucas est un progressiste. C'est un très grand partisan de l'amendement du condamné. Or, on trouve chez Charles Lucas des passages qui font aujourd'hui froid dans le dos, qui sont, à nos yeux, quasiment totalitaires. Où Charles Lucas dit « c'est formidable en prison, on peut se saisir de la totalité de l'existence d'un homme, de son geste, de sa parole, voire même de sa pensée. C'est formidable, vous vous rendez compte un peu la carrière qui est ouverte au progrès de l'humanité. » Et Charles Lucas est un progressiste. C'est un libéral au sens de la monarchie du milieu. Ce sont plutôt les pessimistes à l'époque qui sont plus libéraux en notre sens. Ce qu'il convient de bien comprendre, c'est que le système qui a été mis en place sous la monarchie de Juillet, et qui, je crois en tout cas, ne rompait pas fondamentalement avec le système de 1819, ce système carcéral est celui qui s'est perpétué jusque dans les années 1960-1970 du XXe siècle. On mentionne souvent la réforme dite Amor, la réforme Amor de 1945, qui est présentée comme véritablement la renaissance du progressisme carcéral. Mais la réforme Amor, quand vous regardez les principes sur lesquels elle s'appuie, elle tient plutôt du revival qu'autre chose, elle n'est pas du tout originale. C'est dans ses réalisations concrètes qu'elle est intéressante, mais dans ses principes, elle ne rompt pas du tout avec le progressisme carcéral du XIXe siècle. Que s'est-il passé, alors? Ce qui s'est passé, je passe à ma deuxième partie, c'est le passage, de, pour reprendre une expression célèbre d'un monsieur dont j'ai oublié le nom, de monsieur Favard, de monsieur Jean Favard, c'est le passage de ce qu'on appelle le détenu sujet au détenu citoyen. Et ce passage du détenu sujet au détenu citoyen, il a été déterminé par, tout d'abord, essentiellement, il a été déterminé par l'effondrement de la légitimité morale traditionnelle de la prison. L'effondrement de cette légitimité morale, je crois que le philosophe Gilles Lipovetsky l'a synthétisé dans une formule percutante, c'est ce qu'il appelle le crépuscule du devoir. C'était le titre d'un de ses livres. Ça désigne de façon impeccable ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas vous faire tout un discours sur ce qui s'est passé dans les années 60, vous le savez aussi bien que moi, mais ce qu'il est important de voir, c'est que l'effondrement de l'idée du devoir et donc de l'image de l'honnête homme de la société bourgeoise a eu un impact direct sur la conception des droits individuels et sur la conception des grandes institutions fermées de la société bourgeoise, la prison, l'école, l'armée. C'est à partir du moment où plus personne ne croit en cette idéologie du devoir que l'on commence à voir la prison comme un système oppressif, normatif, comme on dit. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un système oppressif et normatif? Une « total institution », pour reprendre la formule de Goffman, ou une institution disciplinaire, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, mais c'est parce que personne ne croit plus dans l'idéologie du paternalisme carcéral telle qu'elle a été formulée au XIXe siècle. C'est uniquement pour ça. Et vous avez un exemple parfait de cela chez les juristes dans une étude de Daniel Lochak intitulée « Droit et non-droit dans les institutions totalitaires », étude qui est parue en 1981. Étude qui est remarquablement écrite, dans laquelle l'auteur expose dans un tableau glaçant la logique de l'institution totalitaire. Par une sorte de renversement dialectique, l'institution totalitaire devient l'envers ou, je reprends son expression, le sous-produit nécessaire de la vie sociale normale, où se trouve confiné à des fins de normalisation ceux qui ne peuvent ou ne veulent jouer le jeu de la société libérale. Close sur elle-même, séparée de la vie sociale, l'institution totalitaire est régie par une réglementation proliférante et pathologique qui est suscitée par la logique disciplinaire. Rien ne peut empêcher le développement de règles toujours plus pointilleuses qui viennent envelopper tous les aspects de la vie de l'individu. Voilà l'arbitraire de l'institution totalitaire, non pas l'absence de règles, mais la multiplication discrétionnaire des règles permise par le primat absolu de la finalité disciplinaire. Je noterai en passant que dans cette nuit totalitaire si bien dépeinte par Daniel Lechac, toutes les institutions sont grises et que la prison devient un simple échelon sur un axe gradué qui conduit tout droit au camp de concentration. Il est bien évident que la société libérale ne pouvait plus se satisfaire de l'existence en son sein d'institutions totalitaires. Et c'est cela qui a entraîné la transformation contemporaine de la prison et l'abandon de la jurisprudence sur les mesures d'ordre intérieur. Cette transformation de la prison, elle s'est faite essentiellement sous l'influence des règles européennes, des règles élaborées par le Conseil de l'Europe. Vous avez eu trois textes fondamentaux, une résolution contenant l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, 19 janvier 1973, une recommandation sur les règles pénitentiaires européennes adoptée par le Comité des ministres le 12 février 1987, et une recommandation sur les règles pénitentiaires européennes adoptée par le Conseil des ministres le 11 janvier 2006. Donc 1973, 1987, 2006. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'expression « droits fondamentaux, droits de l'homme » n'apparaît pas avant 2006. C'est-à-dire que c'est que nous parlons vraiment d'une évolution qui est très récente. Il est intéressant de voir l'évolution de la conception de la prison qui se manifeste à travers ces trois textes européens, 73, 87, 2006. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Qu'est-ce qu'on constate essentiellement ? ce qu'on constate, c'est que l'idée qui pointe en 87 et qui s'épanouit en 2006, c'est l'idée que la clôture de l'institution carcérale est mauvaise. La clôture de l'institution carcérale est mauvaise parce qu'elle est désocialisante. Or, la désocialisation est vue comme la source même du mal. Vous avez donc l'institution carcérale du 19e siècle et l'institution carcérale contemporaine sont complètement à front renversé. Puisque la clôture de l'institution carcérale était justement vue au 19e siècle comme la condition de réalisation de son but moral, c'est-à-dire de l'amendement moral du condamné. J'en terminerai par là, les principes qui aujourd'hui gouvernent l'organisation carcérale, en Europe en général et en France en particulier, il y en a deux. Le premier principe, attendez, je le dirai mieux si je cite... Excusez-moi.
Vous pouvez citer tranquillement.
Voilà, je cite tranquillement. Le premier principe, c'est que les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d'emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire. Le second principe, c'est que les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquels elles ont été imposées. Ainsi, jouissance de principe de tous les droits garantis par la Convention notamment, et proportionnalité sous le contrôle du juge de toute limitation de ces mêmes droits, le renversement fondamental est opéré par rapport au système de 1819. Je vous remercie.